Le Mans fait son cirque 2022 sur Radio Alpa.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Alpa Le Mans qui nous écoutent sur le 107.3 et sur radioalpa.com. Nous sommes ce week-end de 12h30 à 13h30 en direct du festival Le Mans fait son cirque dans des chapiteaux qui sont installés sur la promenade de Newton dans le quartier des Sablons. À mes côtés, Robin Hulin de la rédaction de Radio Alpa. Bonjour Robin.
Bonjour, bonjour à tous.
Alice Mourgue à la réalisation technique, Jean Foucault pour évoquer cette 21e édition du festival circassien du Une 21e édition qui présente depuis le 14 juin plus de 60 représentations d'une vingtaine de compagnies sous chapiteau ou en extérieur sur les bords de l'Huisne, à proximité de la cité du cirque et du futur chapiteau permanent. Et il y en a pour tous les goûts qui illustrent les arts du cirque, de multiples performances avec des acrobates, des jongleurs, des équilibristes ou encore des voltigeurs. Des compagnies et des artistes qui nous parleront dans nos deux émissions de leur création qu'ils présentent au public. Pour cette première émission, nous recevons le cirque La Compagnie pour leur spectacle Pandas, que vous pourrez aller voir ce samedi à 21h15 et dimanche à 19h45. Ils sont sous le chapiteau 13. Le peintre et dessinateur Adore, que Robin Hulin a rencontré cette semaine lors de la réalisation de sa fresque Farandole sur un mur de la cité du cirque. Et pour commencer, eh bien, nous allons évoquer le spectacle Empreinte, la création 2022 mettant en piste les comédiens et musiciens Servane Guittier et Antoine Manceau de l'attraction Céleste, une création qui est certainement la plus originale de ce festival, emmenant le public dans ses émotions les plus inattendues. Bonjour.
Bonjour.
Le public pourra découvrir votre quatrième projet de création, ça s'intitule donc L'Empreinte. Si la pluie se calme, eh bien vous pourrez effectivement faire cette représentation ce samedi à 15h et dimanche à 11h. Votre duo existe depuis 2006, vous travaillez ensemble depuis 1988, c'est dire si vous connaissez bien. Pour ce spectacle, vous avez mis de côté le nez rouge qui illustre le clown, car vous êtes des clowns dans le spectacle, mais au demeurant, toujours dans cette approche clownesque, le public se laisse emporter du rire presque permanent aux émotions fortes. On ne dévoilera pas, bien sûr, le fil rouge de votre création pour laisser au public le soin de sa découverte. Au demeurant, j'ai une première question à vous poser, Servane Guittier et Antoine Manceau. Quelle est l'intention de cette nouvelle création quand on fait du clown ?
Quand on fait du clown, on partage quelque chose avec le public de très précieux, de très convivial. On est dans l'ici et maintenant. Et c'est le projet de départ encore de cette création. Notre travail, c'est vraiment une relation très très proche avec le public. Donc on est parti de ça. Comment créer une relation avec le public, comment le public est en relation aussi ensemble, parce qu'on est sur du circulaire. C'est le quatrième projet de l'attraction Céleste et on est toujours en circulaire.
En circulaire, ça veut dire que le public est installé en cercle.
En cercle, voilà. On a un petit gradin de 120 places, assez intime, comme au cirque en fait au départ. Et voilà, les gens sont côte à côte, tous ensemble, et nous au centre ou avec eux à côté.
Alors il y a cette intention de la proximité avec le public, effectivement, mais il y a une autre intention derrière qui a été peut-être plus complexe à appréhender, c'est, je dirais, le fil rouge du spectacle.
Oui, alors c'est
comment
vrai
en parler
c'est...
sans en parler.
Voilà.
C'est ça qui est intéressant. On parlait du public, donc il faut que le public s'attende à une forte proximité avec votre rôle dans le spectacle. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais été aussi bien accueilli lors d'une représentation. On ne va pas dire pourquoi. Il était important justement d'y associer pleinement un public plutôt participatif plutôt que de le laisser passif à regarder votre spectacle, votre intention.
Oui, sans trop dévoiler, c'est vrai que la thématique, en tout cas du spectacle, se situe au niveau de la mémoire. Et on se rend compte que le lien social, le lien entre les gens, notre identité, tout ça, ce sont des petits bouts de mémoire mis ensemble. C'est ça qui forge notre histoire commune et c'est ce qu'on avait envie de créer avec le public. C'est pas, on vient ensemble à un instant T dans un gradin, mais ce qu'on vit ensemble, c'est vraiment une histoire commune. Mmh. Donc on essaye de sublimer ça, d'apporter ça. De le porter vraiment que le public ressente qu'on est tous ensemble et qu'on crée des liens. Et après, voilà, quand ces liens sont créés, on peut vivre des choses ensemble un peu différentes.
Alors c'est un spectacle où, comme à votre habitude, la musique détient toute sa place.
Alors, en fait, on est musiciens, nous, avant d'être circassiens. On a vraiment commencé par la musique. Et c'est quelque chose qui nous mène beaucoup. Et chaque fois, dans nos spectacles, la musique, elle a un rôle presque narratif. C'est-à-dire qu'on est... dans des spectacles où c'est pas la parole, le texte qui est le plus important, même si là on parle et on s'exprime, mais c'est des situations fortes qui vont raconter, c'est un contexte, et la musique dessus vient nourrir une espèce de forcément elle amène des émotions, et ce qu'on n'exprime pas avec des mots, des fois on l'exprime avec la musique, parce qu'on a cette particularité d'être au même moment comédien et musicien, donc on s'exprime pas avec les mots, mais on s'exprime avec les instruments.
Alors, c'est vrai que, Servane, vous avez un rôle important dans le spectacle parce que c'est vous qui tenez, je dirais, le public du début à la fin.
Oui, ben c'est une position particulière, effectivement. C'est nouveau pour nous parce que jusque-là, on était vraiment un duo où on suivait le même parcours du début à la fin. Là, c'est un peu différent. Et ce qui est chouette pour nous, c'est qu'effectivement, pendant 10 ans, on a travaillé le clown avec les nez rouges, avec des grimages, etc. Là, on les a laissés de côté pour pouvoir aller un petit peu ailleurs, mais nos clowns sont quand même très présents,
voilà,
dans le jeu, dans la spontanéité, dans l'improvisation, dans ce rapport au public, ça joue.
Je vous propose justement d'écouter quelques réactions du public qui était présent à la représentation, c'était hier soir, des réactions qui ont été recueillies par Alice Mourg pour Radio Alpa. Je vous propose de les entendre.
Le Mans fait son cirque 2022 sur Radio Alpa.
C'est une belle allégorie sur la mémoire et sur l'histoire, c'est très très joli, à voir.
Moi j'ai beaucoup à aimer le spectacle.
C'était un spectacle très émouvant, surprenant, je crois que c'est les mots, c'est vraiment très surprenant, très bien joué. Et chacun des deux personnages reprend son jeu de l'un au l'autre, donc c'est très beau.
C'était très bien, très émouvant, beaucoup d'émotions et très simple, mais en même temps très bien, un très bon jeu de clown. On y croit vraiment. Je conseille le spectacle, c'est trop bien.
C'était un spectacle très fort sur la mémoire, bien sûr. C'était très, très émouvant, très poétique aussi.
C'était un spectacle très fort, surprenant aussi, qui nous tient en haleine en fait jusqu'à la fin.
J'aime beaucoup. D'abord, j'aime la musique et je fais l'accordéon, alors j'aime bien aussi. Ça avait du sens. Allez, la roue qui tourne, on peut perdre la mémoire et puis c'est difficile de la retrouver, mais c'était magique.
Eh bien, j'ai été beaucoup touchée par ce spectacle que je trouve très intimiste et ça m'a procuré beaucoup d'émotions.
On avait les réactions du public. Est-ce que ces réactions-là vous surprennent ?
Ben, en tout cas, elles nous font très plaisir puisque c'est le démarrage de la création. Donc là, c'était la 9e représentation. On a fait nos premières en février. Et ben, c'est toujours un défi de faire une nouvelle création, de se mettre en danger, de changer des personnages qui fonctionnaient bien. On s'est un peu mis en danger. Donc on est très heureux du résultat et de ces retours du public. C'est fabuleux pour nous.
Servane, quand on dit on s'est mis en danger, en quoi on s'est mis en danger justement sur ce spectacle ?
Là, on travaille en clown depuis 10 ans, donc on a commencé à acquérir une certaine maîtrise, on va dire. On s'amuse beaucoup, on a toujours le trac, mais on s'appuie sur des choses un peu solides. Là, enlever le maquillage, revenir à un jeu plus naturel, bah, c'est re-questionner le jeu du comédien, un jeu différent. Et puis ce rapport très intimiste, il faut aussi le provoquer, l'assumer.
Antoine, c'est plus compliqué de susciter les émotions que de susciter le rire dans l'exercice.
Est-ce que c'est plus compliqué? Je ne sais pas si c'est plus compliqué.
Plus complexe peut-être.
Ouais, peut-être plus complexe. C'est plus au moment de l'écriture peut-être que ça se joue plutôt qu'au moment de l'interprétation. Après tout ça, c'est vrai que c'est quand Servan parle de danger, c'est vrai qu'on est un peu sur un fil parce qu'on est sur un jeu qui est très 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 réel en fait. On donne l'impression aux gens qu'on n'est pas en train de jouer, alors qu'on est en train de jouer. Nous, on a notre partition et on déroule notre fil. Et il y a un petit côté un peu funambule, c'est-à-dire qu'on peut être à côté très 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 vite. Et le gros danger du clown, c'est d'être ridicule. Tant que le clown est ridicule, les gens rient. Mais si c'est le comédien qui devient ridicule, alors là, ça y est, ça passe à côté. Et c'est là où le danger se situe.
Finalement, l'émotion dont on parle, elle touche essentiellement un public adulte qui va découvrir de quoi, quelle est l'intention derrière, parce que les enfants ne savent pas, derrière cette intention-là, ils continuent à rire effectivement, grimace aux mots, aux gags du clown. Et ce qui m'a fait plaisir hier, c'est la réaction du petit garçon qui était tout blond, voilà, qui avec les chaussures, puisque vous faites des claquettes aussi dans les spectacles, qui finalement joue aussi le jeu en tant que public.
Mais c'est vrai que c'est un spectacle où le public a particulièrement sa place et on s'efforce de laisser une grande, grande place au public. Et en accueillant le public, on accueille chaque spectateur en fait au début. Et puis on se présente, on connaît les prénoms. Le public peut s'exprimer en fait. Il y a de la place pour le public et qu'il soit adulte ou qu'il soit enfant. Il y a cette place-là.
On s'est beaucoup questionné au départ. On a eu le projet qui est né, mais on ne savait pas encore si ce serait nos clowns ou d'autres personnages qui allaient les jouer. Mais on a vite compris que si on gardait nos nez rouges, justement ce rire qui continue chez l'enfant parce qu'il ne perçoit pas forcément la gravité de ce qui peut se passer, c'était pas possible avec un nez rouge. Ou en tout cas, ça aurait été différent.
Trop décalé.
Ben, disons qu'il y a des émotions. Le nez, ça crée une distance en fait. Là, il n'y en a pas. Donc on peut aller toucher quand même des choses un peu plus profondes. En tout cas, le public peut peut-être plus être en empathie avec nos personnages qu'avec des clowns avec qui il y aurait une différence.
Le problème du clown, c'est que ça amène un a priori chez le spectateur. C'est-à-dire qu'il arrive dans un certain état en se disant « on va rire ».
Voilà, on sait qu'on va rigoler, il y aura plein de gags, etc.
Voilà, et tout est accident et drôle, et etc., etc. Alors que là, on est dans ce principe du clown où il y a des accidents, où il y a des petites choses qui sont drôles, mais il y a des accidents qui sont moins drôles aussi. Ouais.
C'est un spectacle plein de tendresse et de bienveillance, notamment de Servan par rapport au personnage d'Antoine. Où figure cette gravure, cette empreinte? Qu'est-ce qu'elle signifie dans son illustration pour votre spectacle? C'est pas un hasard qu'elle soit là.
C'est pas un hasard, c'est effectivement l'image de la gravure, de l'impression, c'est complètement lié à la mémoire. Moi, je suis celle qui est solide, qui imprime, quoi. Et puis, après, on a travaillé sur la figure de l'oiseau, un petit peu, par rapport à Antoine...
Attention, tu commences à...
Ouais.
En tout cas, ce sont de nouvelles approches dans le spectacle. Ça n'existait pas avant.
Oui, ça nous plaît bien.
Comme ça, on ne dira pas davantage.
Tout le côté graphique, tout le côté art plastique, un peu, c'est assez nouveau.
Oui, c'est nouveau. Hein.
Ouais, c'est nouveau. Voilà.
Mais c'est pareil, on parle souvent de défis pour les créations. Et par exemple, pour Bobine, on avait exploré le domaine du cinéma avec les films. On s'était approprié tout ça pour le mettre au service de notre créativité. Et là, c'est vraiment un nouvel outil, quoi.
Toujours pour en revenir à cette gravure, c'est aussi une certaine image d'un bonheur éternel, de la fête, de l'insouciance. Elle traduit ça aussi, cette image?
Oui, c'est sûr, c'est la danse, quoi.
Ah oui,
on danse, peu importe effectivement l'énergie, les capacités. Et pour nous, ça nous fait... C'est une histoire de boucle, en fait, parce que notre première création s'appelait « Dans mes bras » et elle était déjà avec nos personnages comme ça, sans nez, sans maquillage. Et on y traitait un sujet aussi un peu plus profond et grave que juste Bibu, Humphrey et Bobine. C'était plus drôle, on va dire. Et pour nous, c'est touchant de refaire un spectacle plus dramatique en ayant joué pendant 10 ans nos personnages de clowns qui sont venus nourrir...
Savane Guittier et Antoine Manceau, on a vu que certaines personnes du public sont venues vous voir à la fin du spectacle. Alors je ne sais pas si c'est habituel hein, par rapport au public quand vous êtes dans une autre approche plus avec le nez rouge. Est-ce que ça vous étonne ça que finalement le public à la fin de certaines représentations de ce spectacle L'Empreinte vienne vous voir et discuter avec vous ?
Pas tant parce qu'en fait on a une posture qui nous met un peu au même niveau que le public, donc on fait partie du même groupe. Et quand on voit un spectacle en frontal dans un théâtre, les artistes sont sur la scène, ils sont loin, ils partent dans les loges. Et après, si on les voit, c'est dans le hall du théâtre. En cirque, et particulièrement en circulaire, déjà sous un chapiteau, on est tous sous le même espace. Et les artistes sont au milieu, donc on les aborde plus facilement. Et nous, le lieu qui est vraiment très intimiste nous rend très proche du public. Et à la fin, on s'en va pas. On reste là. Donc, c'est très facile de nous aborder et on est complètement ouvert à ça, en plus.
On sort d'une période difficile pour les artistes. On pense notamment aux intermittents du spectacle qui ont subi de plein fouet l'arrêt des spectacles, les représentations en public. La FESAC, d'ailleurs, qui est l'organisme national concernant les spectacles vivants, l'audiovisuel et le cinéma, vient d'écrire à la nouvelle ministre pour demander à nouveau les conditions d'une année blanche concernant les indemnisations, concernant tout simplement les artistes qui n'ont pas pu, même s'ils ont beaucoup travaillé cette année un peu plus, on va dire. En tout cas, la situation est toujours dramatique. Quelle est votre posture, vous, par rapport à ce qui préoccupe les artistes, les intermittents du monde du spectacle dans cette crise ?
Ce qui est sûr, c'est que le spectacle est essentiel. Que là on le voit tout ce qui se crée dans une salle de spectacle entre les gens est plus que nécessaire pour lutter contre le repli sur soi, parce que toute cette période a créé quand même beaucoup de repli à l'intérieur des maisons, donc recréer du lien, c'est vraiment indispensable. Et c'est le spectacle vivant est quand même l'endroit où on retrouve cette convivialité, cette fête, cette joie, ces échanges, cette réflexion. Donc il faut absolument se battre pour que ces espaces-là soient présents et soient sécurs.
On aperçoit que le public, qui a été habitué à faire autre chose pendant la crise sanitaire, avec les confinements, avec de nouvelles habitudes, avec le pass sanitaire, qui a aussi été un blocage pour aller dans les salles de spectacle ou de cinéma, ne revient pas de manière si naturelle que ça, remplir les salles. Est-ce que ça, c'est une vraie préoccupation que vous partagez avec les autres artistes les programmateurs ?
Oui, je pense que c'est à cet endroit-là que c'est le plus problématique, parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont installés confortablement chez eux, en fait. Il y a les ventes de vidéoprojecteurs, par exemple, qui ont beaucoup augmenté avec les plateformes et tout ça. Les gens se disent, effectivement, on peut faire chez nous, il n'y a pas besoin d'aller au cinéma. Et c'est des lieux de rassemblement, c'est des lieux d'échange. C'est là, sur Internet, les échanges ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, du coup, moi, la vraie inquiétude, oui, elle est à cet endroit-là. Effectivement, de ne pas voir le public revenir facilement, il va falloir faire un vrai travail pour ne pas jouer peut-être qu'à l'intérieur des théâtres, sortir un peu, retourner vers les gens pour qu'ils aient envie de revenir et de partager ensemble. Ouais.
Et revivre, parce qu'on ne vit pas tout seul chez soi enfermé, entre quatre murs.
C'est clair.
En tout cas, on ne vit pas du tout la même chose.
Voilà, on ne vit pas du tout la même chose. Je pense que c'est moins riche que de sortir et d'aller à la rencontre des autres. Merci beaucoup, Servane Guittier et Antoine Manceau de l'attraction Céleste. On rappelle le spectacle, votre création 2022, Empreinte, un spectacle que le public pourra aller découvrir ce samedi à 15h et dimanche à 11h. Et nous, dans quelques instants, on va se retrouver avec le peintre et dessinateur Adore. Robin Hulin est allé à sa rencontre cette semaine alors qu'il réalisait sa fresque Farandole sur un mur de la Cité du Cirque dans le cadre de la 4e édition du Festival des Arts Urbains Plein-Champ à partir du 1er jusqu'au 3 juillet au Mans.
Le Mans fait son cirque 2022 sur Radio Alpa.
Radio Alpa, toujours en direct du 21e festival Le Mans fait son cirque, où nous sommes installés pour nos émissions sur la promenade Newton, près des bords de l'Huisne, dans le quartier des Sablons. La 4e édition du festival des arts urbains plein champ, dédié au street art, revient au Mans du 1er au 3 juillet. Ce sera au parc du Gay Démony, avec 139 artistes et 13 groupes musicaux. C'est en amont de ce rendez-vous culturel de la ville du Mans que, Robin, tu es allé rencontrer cette semaine le peintre et dessinateur Ador lors de la réalisation de sa fresque Farandole sur un mur de la Cité du Cirque.
Effectivement, oui, la veille de l'inauguration de ce projet, nous sommes allés rencontrer Ador pour faire un point sur ses 6 mois de projet.
Bonjour Ador.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc lancé dans un projet de création et de rencontre autour d'une fresque. C'est un projet à l'initiative du Plongeoir Cité du Cirque avec la ville du Mans dans le cadre du festival Plein Champ au Mans du 1er au 3 juillet, consacré au street art, et également dans le cadre de Le Mans fait son cirque. Pendant 6 mois, vous avez effectué une résidence dans le quartier des Sablons et vous êtes allé à la rencontre des habitants pour imaginer cette fresque sur un mur de la Cité du Cirque. Et vous avez donc réalisé cette œuvre entre le 21 et le 23 juin. Pour commencer, de quelle manière vous avez imaginé cette fresque grâce aux habitants que vous avez rencontrés pendant tous ces mois ?
Alors du coup, vite, comme le format s'y prêtait, on a vite pensé à organiser une farandole avec plein de personnages très différents, donc qui parlent par nature de diversité. Et du coup, pour charger cette fresque des éléments les plus divers, comme je viens de dire, il s'agissait de recenser le maximum d'idées auprès de tous les gens que j'ai pu rencontrer. Des petits, des plus jeunes, des habitants lambda, des plus vieux, des très vieux, des scolaires, des jeunes du quartier. Et du coup, j'ai eu énormément d'idées. Et grâce à ça, j'ai pu en prendre le maximum pour les injecter dans la fresque, toujours en restant fidèle à un univers que je coucoune.
Et justement, qu'est-ce qu'il en est ressorti des habitants que vous avez rencontrés ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti ?
Du coup, énormément de choses. Ça allait un peu dans tous les sens. Et du coup, au début, on est vraiment parti de rien. Parce que du coup, on les guidait sur rien, hormis le fait qu'on voulait faire une farandole. Mais du coup, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait vraiment plein de choses à prendre. Et du coup, après, il s'agissait vraiment de mettre en scène le maximum de choses que j'ai pu sélectionner. Puisqu'il y a une sélection assez drastique qui a dû être faite, tellement il y avait de choses.
Justement, comment on retranscrit les mots, les idées, le regard que les gens ont sur le monde dans l'art et le dessin ?
Bah, du coup, je pense qu'il y a des choses qui sont assez naturellement. Et c'est vrai que j'ai pas forcément de recul sur la façon dont s'agencent les mots qui peuvent accompagner mon travail. Mais du coup, à force de dessiner, quand on me donne 3 idées, j'ai naturellement tendance à les transposer en images. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait.
Voilà, ce sont des personnages assez particuliers, des créatures, il y a des couleurs, ce sont des personnages, des gens. Vous êtes inspiré de quoi ? De personnalités que vous avez rencontrées, de profils qui vous ont marqué ? Est-ce qu'on retrouve un peu ces gens-là dans ces drôles de personnages assez assez fantastiques ?
Non, on retrouve pas les gens, c'est pas des portraits ni des caricatures des gens que j'ai pu rencontrer, mais plus des déclinaisons des historiettes dont ils ont pu me faire part et anecdotes. Du coup, toujours dans l'esprit très clownesque, caricatural, des fois de l'ordre de la fable ou du conte. Et du coup, c'est vraiment toutes les petites choses qu'on peut voir ou la fresque en entière est vraiment issue de l'imaginaire des gens combiné au mien.
C'est la première fois que vous vous lancez dans ce type de projet ?
J'ai déjà fait des projets pas similaires, mais avec une nature assez proche, où vraiment il s'agissait de concerter au maximum les habitants et les gens du quartier pour pas arriver, faire une fresque et repartir. Là, du coup, elle est vraiment chargée de tout un tas de rencontres. Et ça, cette démarche-là, oui, je l'ai déjà faite. Et c'est quelque chose qui m'enchante clairement, quoi.
On imagine qu'il y a un regard différent et des idées différentes qui en ressortent selon les âges, selon que vous ayez rencontré des enfants ou des personnes âgées.
Oui, mais quand je dessine, moi, je suis vraiment un enfant qui joue, c'est clair. Et on a tous été un enfant, et je pense que quand j'ai rencontré des anciens, ils se sont prêtés au jeu comme des enfants.
Vous avez également été en lien avec des établissements. Donc, on lisait des écoles, des EHPAD, des centres sociaux.
C'est ça. Le centre socioculturel des Sablons, l'EHPAD, la maison des seniors, école maternelle Oreo, école primaire Philippot. Ouais, ça fait un sacré paquet de monde. Ça m'est arrivé de rencontrer des fois 150 personnes dans une journée.
Vous pourriez faire ce projet ailleurs, dans d'autres quartiers ou dans d'autres villes ?
Bah oui, c'est envisageable de le faire ailleurs, forcément autrement. Mais oui, bien sûr. Puis comme je disais, c'est des choses que j'ai pas faites de la même manière, mais de charger une fresque de toutes ces rencontres, c'est hyper plaisant. Donc oui, ça me donne juste envie de refaire quelque chose d'assez similaire.
Alors, en découvrant cette fresque, on voyait également un jeune qui participait à la création. Vous avez été accompagné par d'autres artistes, d'autres personnes dans ce projet ?
Bah, des artistes, j'ai fréquenté pas mal de circassiens. Comme il y a plein champ qui a lieu toute l'année et en juillet, j'étais amené à croiser des artistes qui réalisaient des fresques pendant mes passages. Donc oui, j'étais amené à rencontrer pas mal d'autres artistes.
Et vous avez également sorti cette année un monographe qui retrace vos 18 années de peinture, de création. Racontez-nous un peu.
Bah du coup, il s'agissait de faire un point et sur bah tout mon boulot. Donc ça fait 18 ans que je peins, donc je trouvais que 18 ans c'était le moment assez opportun pour la faire cette monographie du coup. Et si j'avais dû attendre toujours je la ferais jamais. Donc là je voulais faire un peu un point. Et la sélection était hyper dure pour sélectionner les images à mettre dans le livre parce que j'en ai fait beaucoup plus que ce qu'il y a dedans quoi.
Et alors quels sont vos projets pour la suite maintenant ?
Bah là j'ai envie de faire pas mal de livres pour enfants. J'aimerais bien j'ai pas mal d'idées pour en faire, donc ça va demander un peu de temps parce que c'est pas des projets qui se font en one shot comme une fresque. Et je prépare des expos et pas mal de fresques à droite à gauche.
Ben merci beaucoup, Ador.
Merci.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour découvrir votre fresque et ce travail de 6 mois, rendez-vous à la Cité du Cirque. Le mur fait 60 mètres de long, donc on peut pas le louper. Merci encore. Merci. Bonne journée.
Le Mans fait son cirque 2022 sur Radio Alpa.
De retour en direct du 21e festival Le Mans fait son cirque avec en conclusion de cette émission, de cette première émission, le cirque La Compagnie pour leur spectacle Pandax que vous pourrez aller voir ce samedi à 21h15 et dimanche à 19h45, c'est au chapiteau 13. La première représentation avait lieu ce vendredi à 22h. Eh bien, je vous propose d'écouter les réactions du public recueillies par Robin Hulin à la sortie du spectacle.
Juste fantastique, et magnifique. Je pourrais donner tous les qualificatifs. Le spectacle est incroyable. Allez voir et revoir et revoir et revoir.
Il y a un jeu avec les lumières, la couleur et puis le côté ultra complet de chaque circassien. Ils nous transportent à chaque fois dans leur discipline. C'était juste incroyable.
On sent qu'il y a de l'entraînement, qu'ils sont vraiment très très habiles et très forts. Très beau spectacle que je conseille vivement.
Il ne faut pas oublier, ce sont surtout les musiciennes hein, quand tu es excellente. Là, c'était un peu dans l'ombre, mais il ne faudra pas oublier aussi de les mettre en valeur. Puis le thème est sympathique en plus. La mort du père, l'urne, c'est franchement...
Des choses complètement inattendues. C'est vraiment très très joyeux, très très diversifié. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé la musique. Hein.
Mais je crois que les applaudissements à la fin ont tout donné. Quoi. Enfin, voilà, c'est la grande preuve que c'était un spectacle de qualité. Hein. Ça a duré un certain temps, hein, les applaudissements collectifs. Franchement, c'était vraiment de qualité. Enfin, vraiment bravo. Hein, bravo.
Oh, la légèreté des acrobates et tout, c'était superbe. Cette facilité à rentrer dans la voiture. Et, c'était très bien.
Beaucoup d'imagination.
Vachement pro. On peut mettre ça sur, je sais pas, ça peut passer à une émission à la télé. Hein.
Le jeu de scène est... Il nous transporte ailleurs. On a l'impression d'être dans un film, mais c'est eux les effets spéciaux, quoi. C'est juste ouf.
Et nous sommes donc avec Nicolas Provost et Boris Faudella, deux artistes qui étaient sur scène hier soir pour présenter le spectacle Pandax. Alors bonjour à vous.
Salut.
Bonjour et merci d'être avec nous. Le spectacle Pandax, c'est l'histoire de 5 frères qui se connaissent déjà, mais qui se rencontrent pour la première fois. Il n'y a pas grand-chose qui les unit, sauf une chose, leur père, cette urne funéraire dont ils tentent de prendre soin tant bien que mal. C'est un spectacle avec beaucoup d'humour et une succession d'acrobaties, toujours accompagnées de musique et de chant. Je parlais de ces 5 frères, mais est-ce qu'il y a déjà eu une histoire que vous tentez de raconter sur scène ?
Est-ce qu'il y a une histoire qu'on tente de raconter ? Alors je vais paraphraser un peu, mais ouais, l'histoire de ces 5 frères qui se rencontrent. En fait, oui, l'histoire sur le papier, c'est l'histoire de 5 frères qui se rencontrent et qui font une aventure pour aller étendre les cendres de leur père. Ça dépend comment on le voit, mais c'est vrai que nous, on a tendance à penser que la vraie histoire, c'est leur rencontre, leur parcours à chacun de comment on se comporte avec ces frères-là qu'on ne connaissait pas et qui deviennent une famille au fur et à mesure de la route, plus que c'est quoi la route physique qu'on prend pour aller se rendre au point d'éparpillement des cendres.
Il y a beaucoup de symbolique autour de ces cendres, alors on ne va pas en dire trop pour le public évidemment. Il y a beaucoup de symbolique, il y a toujours de l'humour, même avec cette cendre. Vous arrivez à manier l'humour avec quelque chose, on l'entendait dans le micro-trottoir, quelque chose d'un peu dramatique aussi. On entendait un monsieur dans le micro-trottoir qui disait que le thème était rigolo au sujet de la mort de votre père.
Oui, ça reste l'histoire d'un deuil, enfin, la perte du père que même si...
À la base, dans l'écriture, c'est vrai que le père, on le connaissait pas vraiment, puisque l'histoire, c'est qu'ils ont le même père, mais pas la même mère. Donc, ça veut dire que l'idée de base, c'est que le père est parti très vite de la maison. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le prétexte qui fait que, bon, bah, a priori, les cinq frères se retrouvent là, maintenant, pour ça, quoi.
Et puis, allez-y, oui.
Ouais, mais surtout pour répondre à ta question, c'était le thème du deuil, c'était un des thèmes qu'on voulait aborder évidemment, mais il était, enfin pour nous, il était un peu hors de question qu'on l'aborde de façon dramatique dans le sens triste du terme, qui est pas le vrai sens d'ailleurs, mais on voulait vraiment pas aborder ce truc-là en soyant lourd, en étant plombant. Nous, c'est pas notre façon de faire. On aime beaucoup tourner avec l'humour. L'humour est une partie intégrante de notre cirque, en fait. Tous les spectacles qu'on a fait, il y en a. Sans humour, je pense que les choses se prennent un peu trop au sérieux, surtout avec des tels thèmes.
Et puis justement, il y a un élément très important, c'est très chorégraphié. Les artistes sur scène sont toujours liés au rythme de la musique et de cet orchestre. De quelle manière la musique et le chant réussissent à prendre la place de la parole, selon vous ? Parce qu'il y a beaucoup d'humour, mais très peu de dialogue.
C'était une volonté de base dans la création. En fait, c'était purement pratique comme raison, puisqu'on a fait une première tournée, enfin un premier spectacle et un deuxième spectacle qu'on a tourné qui avait du texte. Et on s'est fait confronter à jouer à l'étranger, puis à devoir modifier ces textes-là pour qu'ils soient compris et finalement se rendre compte que ça dénaturait un petit peu quelque part de la façon dont c'était perçu, parce que même si on arrive à traduire littéralement et tel quel, il y a forcément des choses qui se perdent dans la langue, des intentions qui se perdent, et on avait envie que ça soit plus, qu'on soit plus dépendant de ce truc-là, donc faire passer tout par la musique, par le rythme et par les corps, sans passer par du texte.
Et puis on a le sentiment qu'entre ses frères il y a de la complicité, mais il y a aussi parfois un peu de la rivalité. Je sais pas si vous êtes de cet avis.
Ah si, tout à fait, oui. Oui, on s'aime pas beaucoup au début. Après, il faut aussi dire qu'on fait dans l'histoire, on reste quand même longtemps dans un petit espace. On ne se connaît pas trop, mis à part deux frères, les Simons, qui se connaissent un peu plus. Mais oui, il y a un peu de rivalité, il y a un peu de confrontation. Ce qui nous a beaucoup nourri pour l'écriture acrobatique.
Puis au-delà de cette mise en scène, c'est aussi un spectacle sur l'insouciance, un peu plutôt la prise de risque, parce qu'ils sont assez gonflés, ces garçons, assez aventureux.
Ouais, je pense que c'est en grande partie comme ça qu'on voit l'acrobatie aussi, nous. C'est situationnel, quoi. On voit pas forcément le fait de faire de l'acrobatie comme attention, il va y avoir une figure. Mais comme l'environnement et la situation créent le risque qui crée l'acrobatie, parce que je pense qu'on se considère aussi pas mal comme des cascadeurs plus que comme des acrobates. Pas forcément pour tout, parce qu'il y a des trucs qui demandent quand même beaucoup de techniques et d'entraînement de gymnastes, en fait. Mais voilà, enfin, en tout cas pour moi, l'acrobatie circassienne se rapproche beaucoup plus de la cascade que de la gymnastique.
Ah, c'est justement la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a beaucoup d'acrobatie dans votre spectacle, on entend le micro-trottoir, hein. Vous rentrez plus facilement par une fenêtre de voiture que par la porte, ce que personne ne fait. Il y a le mât aussi, qui est une prise de risque conséquente à un moment, il y a des équilibres. Comment on mesure justement, quand on prépare une création, le risque d'une figure périlleuse?
Comment on mesure la première fois qu'on l'essaye, si on se pète la gueule et qu'on se fait très mal, peut-être que c'était trop dangereux. En général, on se lance rarement quand même sans sécurité. Soit on essaie de mettre une longe, soit on met des gros tapis, soit on met des parades. Mais c'est vrai qu'on faut se lancer un moment avec le plus de sécurité possible. En voyant la sécurité, la façon dont on tombe, si on arrive à déterminer si en effet c'est beaucoup trop dangereux ou pas. Mais en règle générale, je pense qu'on a un assez bon regard sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de faire à la longue aussi.
Voilà, par exemple, quand vous avez essayé de rentrer par la fenêtre de la voiture, on s'est cogné la tête ou pas ?
Oui, beaucoup de fois. Oui.
Donc, ça veut dire que ces acrobaties-là induisent de mettre à mal son corps à un moment. Est-ce qu'il y a effectivement des blessures inattendues, sachant que vous avez derrière vous, notamment c'est le cas pour le cirque, un ostéo qui vient justement guérir et prévenir ces risques-là.
On n'a pas d'ostéo attitré à la compagnie, mais c'est vrai que on essaye autant que possible d'avoir un suivi. Après, nous, c'est vrai qu'on a, pour le coup, via nos études, on a une sensibilisation assez poussée sur le corps. Puis en plus, avec les disciplines qu'on fait, qui sont pour le coup effectivement très acrobatiques et très dangereuses pour le corps, donc on essaye de suivre ça au mieux. C'est quoi la question déjà, à la base ?
C'était par rapport à votre corps. Est-ce que vous en preniez soin ? Comment on répare les éventuelles blessures ?
Le risque est clairement omniprésent. Le but c'est d'une que le risque soit pas si épeurant que ça, soit remarquable mais pas au point de faire transpirer ou de faire cacher les yeux au public, parce que s'il cache les yeux a priori c'est qu'on allait un peu trop loin. Et blessure, il y a quand même des chances que quand quelqu'un voit le spectacle, il y ait la moitié des artistes qui est très mal quelque part et puis qu'il faut le cacher parce que le spectacle il c'est pas ça quoi. Mais oui, on a souvent mal quelque part, mais si c'est pas des blessures, c'est juste des douleurs. Elles sont un peu toujours là. Là, par exemple, aujourd'hui, il y en a au moins deux qui vont mal quelque part.
Par exemple, où ?
Ouais. Par exemple, hier, je me suis un peu fait mal dans le spectacle. C'est superficiel, hein. On n'est pas sur l'articulaire qui empêche de travailler, mais c'est des inconforts qui fait que la tête peut être pas complètement, pas à 100% dans le spectacle, parce qu'il y a au moins une petite partie qui est genre, ah, ça fait mal, comment je fais pour pas retomber dessus mais bon, les trucs comme ça, on a beau préparer tout ce qu'on veut, quand c'est des coups, on se les prend quoi.
Alors c'est un spectacle qui allie à la fois des performances circassiennes, mais qui allie aussi la musique avec, on peut presque le dire, un orchestre qui est composé pour accompagner justement musicalement ce spectacle, ce que disait Robin Hulin tout à l'heure. Comment vous êtes rencontrés ? Vous êtes travaillé déjà ensemble ou ça a été une rencontre spécifique à ce spectacle ?
Spécifique à ce spectacle, et pour le coup elles sont vraiment arrivées dernière minute et ça a été un gros coup de bol pour nous. À la base on cherchait deux musiciennes. Et en fait, elles ont dit bah d'accord, mais on est trois. Et puis ça a marché direct en fait, parce qu'en plus on a commencé à travailler en distanciel. Du coup, ça a été un peu compliqué de notre côté créer la dramaturgie, l'écriture physique du spectacle, et après du coup de filmer ça, de leur envoyer qu'elles cernent l'état d'esprit, l'ambiance de chaque scène et qu'elles fassent des propositions là-dessus. Et ça a tout de suite très bien marché. Donc on est très très heureux de les avoir avec nous. Elles sont hyper inspirantes. Elles nous ont poussé à faire de la musique. Maintenant on fait un mini concert après le spectacle. C'est extrêmement complémentaire. Elles nous surprennent tout le temps. Elles arrivent toujours à comprendre les directions, les émotions qu'on veut passer dans chaque numéro. Et c'est très très complémentaire.
Alors ça fait penser un peu au Polyphonie Corse version féminine. Il y a une petite tonalité justement qui fait référence soit à l'Italie, soit à la Corse.
La Suisse plus. Avec le yodel.
D'accord.
Il y a quand même, je pas mettre le doigt dessus, mais enfin je m'en souviens plus, mais il y a quand même une identité musicale culturelle que
oui, qui est quand même marquée.
Je m'en souviens plus d'où, genre un peu balkan quand même. Dans le chant en tout cas, clairement, les vocalises harmonies qui sont à mon avis un peu inspirées des pays balkans.
Bon, il y a aussi le jeté de c'est pas un couteau, on appelle ça comment en cirque?
Du couteau. Oui.
Du couteau, d'accord. Alors avec un portrait particulier, on s'est posé la question, ce portrait c'était quelqu'un de particulier dans cette vie des jeunes?
Nous, dans notre dramaturgie à nous, le public peut se faire la sienne, et puis ça, nous on est toujours très contents que les gens viennent nous voir à la fin du spectacle pour dire ah, j'ai vu ça. Nous on n'a pas pensé à ça, mais trop bien que vous ayez vu ça. Mais nous en tout cas, pour nous, ce portrait là c'est notre père. C'est lui qui a... En fait, à un moment, il y a une... j'allais vendre un truc du spectacle. Enfin, en tout cas, voilà, cette affiche-là, c'est le portrait de notre père, qui donc était lanceur de couteau et qui génétiquement ou autrement, en tout cas, m'a transmis un peu cette volonté, cette envie.
Alors, c'est une bande de gamins, finalement, parce que, bon, gamins un peu adultes qui viennent presque d'avoir que le permis de conduire, c'est une Fiat Uno, c'est une Peugeot, une mobilette, une 103 SP, par exemple.
Exactement.
Ça use quelque chose aussi comme propos, le choix de ces deux véhicules dans le spectacle?
Ouais, je pense que ça, à mon avis, ça illustre aussi des choix d'authenticité, vraiment. Alors, d'authenticité, je me fourvoie un petit peu parce que la Panda a été modifiée, ça se sent, elle est plus un moteur thermique.
Il y a de la moumoute à l'intérieur, c'est très confortable.
C'est un peu pour mettre un peu en avant genre la vie passée du père. Mais oui, en tout cas, c'est un peu ce désir d'authenticité sur. On a acheté une Panda qui circulait, et puis bon. Pour les biens du spectacle, on a enlevé le moteur et on a mis un moteur électrique.
C'est plus léger, en vrai.
C'est plus léger, on n'aurait pas pu la soulever sinon. Mais par contre, la mobilette, oui, ça c'était un débat interne qui a quand même duré quelques temps. De genre, est-ce qu'on la passe électrique pour le confort des gens ou est-ce qu'on la garde thermique pour l'authenticité de la chose? En tout cas, pour l'instant, il n'y a personne qui nous a empêché de jouer parce que c'était thermique et que ça puait. On a des retours qui sont négatifs, mais on a beaucoup de retours qui sont aussi... Alors, ça fait du bien de sentir un truc qui pue comme ça. Comme,
oui, ça nous rappelle notre enfance.
Ça rappelle l'enfance.
Mais bien sûr, le garage de mon grand-père, ça m'a rappelé ça.
Du coup, voilà, on aime bien aller dans ce truc d'authenticité, de pas tricher.
Le spectacle a lieu dans le chapiteau numéro 13 de Le Mans fait son cirque. Un peu moins grand, c'était voulu aussi d'avoir cette proximité physique avec le public plutôt que d'être dans un très grand chapiteau.
Oui, tout à fait, c'était voulu, ouais. Comme aussi, au même titre qu'on voulait pas de mât à l'intérieur, d'où l'arche extérieure, pour pas qu'il y ait de mauvaise place, déjà, en tant que public, et ouais, d'avoir ce rapport direct, ce lien direct avec le public, ouais.
Puisque vous dites au sujet de ce spectacle que le chapiteau est pensé comme un acte politique qui place l'itinérance et le collectif au cœur du projet. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est une façon de voir le cirque pour nous. Pour nous, le cirque c'est un mode de vie plus qu'un métier. Et le chapiteau pour nous c'est évidemment le plus bel exemple de comment vivre avec son métier. Quoi. Le chapiteau on le monte, on le démonte, on le transporte, on dort à côté, on le surveille, c'est notre vie quand on est en tournée, c'est ça quoi. Et donc on a eu cette impression que le chapiteau avait tendance à se mourir depuis quelques années, puis ça faisait partie de notre volonté vraiment de réussir à la ramener avec, enfin en tout cas c'est un peu le théorie du colibri, mais à le ramener un peu avec nos moyens et réussir en fait à aller jouer dans un endroit où les gens ne savent pas encore que le cirque contemporain existe. Pour eux c'est traditionnel, le chapiteau c'est traditionnel, c'est changer l'image du chapiteau aussi, on essaie de le faire depuis des années, les autres circassiens, mais on peut pas arrêter encore de le faire quoi, parce que c'est pas encore passé dans toute la tête des gens quoi.
Une dernière question. On sort d'une période difficile pour les artistes, pour les intermittents du spectacle. Comment vous voyez les choses, vous, sur cet aspect-là, puisqu'il y a quand même toujours une mobilisation des intermittents qui alerte la ministre de la Culture, même la nouvelle.
Et ben comment on voit les choses, nous on se dit le but, enfin pour sortir de ce genre de situation, ce qu'il faut c'est jouer, évidemment il faut jouer le plus possible, et du coup forcément se réinventer, on n'a pas encore toutes les solutions, mais déjà ça passe peut-être par un peu plus d'autonomie, peut-être dépendre un peu moins du système en tant que tel.
Comment dépend moins du système?
En s'auto-finançant, disons. Ça, c'est aussi un petit peu, justement, pour se rattacher à quelques codes du traditionnel, c'est faire de l'autoproduction, en fait, aller dans des villes et puis s'auto-promouvoir et faire de la recette au billet, en fait. Se payer par les. Parce que là, le système, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais le but, ça serait peut-être de revenir vers ça sans se dire non, on oublie le système. Le but, c'est pas de se couper de tout. Au contraire, parce que je pense que c'est comme ça aussi que les choses se font ensemble, qu'on peut se croiser les esprits, croiser les idées, tout ça. Mais peut-être qu'à un moment, il va falloir juste qu'on sache comment faire autrement que comme ça se fait en ce moment. Quoi.
Merci beaucoup. Merci Robin.
Merci.
Merci à vous deux pour votre participation à cette émission. On rappelle qu'on pourra aller voir le spectacle Pandax. C'est ce samedi à 21h15 et dimanche à 19h45. Il vous est proposé par le cirque La Compagnie. Profitez, bien sûr, de cette journée. On conclut ce premier rendez-vous de Radio Alpa en direct du festival Le Mans fait son cirque. Merci à nos invités de leur participation à cette émission. On se retrouve demain dimanche, toujours en direct du festival Le Mans fait son cirque 2022, de 12h30 à 13h30. Nous parlerons des nouveautés et des perspectives pour le pôle Cirque Le Mans et de la filière cirque avec des étudiantes et des étudiants de la création bourrasque. Et nous recevrons la compagnie La Volte Cirque pour leur création 2022, faire un tour sur soi-même et de bonnes raisons en représentation ce samedi à 16h30 et dimanche à 15h, et on aura une autre compagnie parmi nous, Robin.
Effectivement, sur le spectacle Foutoir Céleste, qui devait être avec nous aujourd'hui et qui sera finalement disponible demain.
On a savouré les spectacles de cette 21e édition, dont vous trouverez tout le programme sur le site lemansfaitsoncirque.fr. Merci à Jean Foucault pour sa première réalisation technique de cette émission et à Alice Morgue pour sa contribution à la production de cette émission. Merci à Richard Fournier, directeur du pôle régional Le Mans Cirque, et à Anne-Lise Blossier, responsable de la communication du festival Le Mans Fait Son Cirque, pour leur précieuse contribution à nos émissions. On se retrouve demain.
Le Mans fait son cirque 2022 sur Radio Alpa.